Chapitre 8. Être libéré pour pouvoir libérer. La victoire intérieure doit précéder le combat. Examinons plus attentivement l'aventure d'Esther. Confrontée à de sombres menaces, elle se doit de réagir. Des nuages noirs se sont amoncelés à cause de la sinistre influence du premier ministre Haman, homme ambitieux et cruel. Par décret, tous doivent désormais fléchir le genou devant lui. Tous? C'est mal connaître Mardochée qui ne se prosterne que devant son dieu. Haman prend si mal la chose qu'il résout de le faire exécuter, ainsi que tous ceux de sa race. Par ruse, il fait signer au roi une loi qui condamne le peuple juif à l'extermination. Sitôt informé, Mardochée en fait parvenir une copie à la reine, la pressant d'aller trouver le roi pour lui demander grâce. Mais Esther hésite. Sans convocation officielle, elle sait qu'elle risque la peine de mort si le roi ne l'accueille pas favorablement. Voici déjà un mois qu'elle n'a plus vu son mari. La concurrence entre co-épouses est impitoyable. Mardochée insiste. « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther 4, versets 13 à 14. Convaincue, la jeune reine cède aux instances de son père adoptif. Il est évident que le combat la dépasse. Ce n'est pas contre la chair ou le sang qu'elle va se battre, mais contre le prince des ténèbres qui manœuvre dans l'ombre pour égorger et détruire. Jean 10, verset 10. Aussi demande-t-elle aux Juifs de la capitale de s'unir à elle dans un jeûne de 3 jours. En priant, elle découvre que son premier ennemi est tapis au fond d'elle-même. C'est la peur qui l'empêche de se battre. Lutter contre ses craintes semble insurmontable. Que faire ? Dans l'adoration, Esther reçoit une nouvelle révélation de qui est Dieu. Sa puissance et son amour infini balayent toute crainte de l'homme. Dieu fait grâce à ceux qui le cherchent. Jacques 4, verset 6. Les problèmes que je dois affronter ne sont certes pas du même ordre, mais la victoire intérieure doit précéder le combat pour mon couple. Jalousie qui déforme la réalité, amertume qui aveugle, désespoir qui détruit toute attente, pitié de soi qui sape la confiance en Dieu, où est l'obstacle? Si des habitudes ou des faiblesses malsaines empoisonnent ma vie, je dois les dépouiller de toute fausse excuse et accepter qu'elles soient mises à nu. Le bras de Dieu n'est pas trop court pour me sauver, ni son oreille trop dure pour m'entendre. Il m'aime tendrement. Je ne vais pas laisser le péché mettre une séparation entre lui et moi. Ésaïe 59, versets 1 à 3. En le laissant sonder mon cœur, je pourrai lui confesser colère, orgueil, amertume et tout péché secret, si l'on est. Purifiée, lavée par le sang de l'agneau, j'affronterai alors victorieusement l'adversaire. Esther, ainsi préparée et fortifiée par le Seigneur, se présente devant le roi qui lui accorde sa faveur et accepte son invitation à un festin. Au cours du repas, quand le roi lui demande ce qu'elle désire, l'assurant qu'il le lui accordera, son cœur se met à battre. Il semble tellement bien disposé. Inexplicablement, elle repousse encore le moment de parler, invitant son époux à un second festin. Va-t-elle laisser passer l'occasion favorable? Ne se rend-elle pas compte que tous ses compatriotes attendent qu'elle parle? Bien sûr, mais elle a été libérée de la crainte de l'homme et de sa terrible emprise. Elle est tellement remplie de la présence de Dieu qu'elle peut percevoir la douce insistance du Seigneur. Non! « Pas maintenant, attends encore. » Elle se tait. La nuit suivante, le roi ne peut trouver le sommeil. Il se fait lire les annales qui relatent les événements du royaume. On lui rappelle que Mardochée l'a sauvé d'une tentative de meurtre, et il découvre que ce dernier n'a pas été récompensé. Le monarque se fait donc un devoir de corriger cette impardonnable négligence. Le lendemain, il ordonne à Amon de conduire triomphalement Mardochée sur le cheval du roi, revêtu des habits royaux. Pour le premier ministre, c'est une terrible humiliation. Il rentre chez lui mortifié. Mais le temps n'est pas aux grandes délibérations. Les envoyés du roi sont à sa porte et l'entraînent au second festin qu'Esther a préparé. Tandis qu'on sert le vin, le roi demande à son épouse ce qu'elle désire, ajoutant qu'il est prêt à lui donner la moitié de l'empire. Alors seulement la reine répond: Si j'ai obtenu la faveur de sa majesté, et si le roi le juge bon, qu'il veuille accorder la vie sauve à moi-même et à mon peuple. C'est là le vœu que je te demande d'exaucer. En effet, mon peuple et moi, nous avons été vendus pour être détruits, tués et massacrés. Si nous avions été vendus seulement pour être réduits en esclavage, je me serais tue, car cela n'aurait pas valu la peine de te déranger. Scandalisé, le roi Assuérus interroge Esther. Où est donc celui qui a formé un tel projet? Qui est-ce? Elle répond: Notre adversaire, notre ennemi, c'est Amon, ce misérable. Amon est saisi de terreur. Esther 7, versets 3 à 6. Le roi est si furieux qu'il quitte la table et sort dans les jardins du palais. Amon comprend que sa perte est arrêtée. Il se tourne vers la reine pour la supplier. Lorsque le roi revient, il trouve Amon prostré sur le lit où se trouve Esther. Outré, le roi s'écrie: Et en plus, il veut faire violence à la reine en ma présence, dans mon palais? À peine le roi a-t-il prononcé ces mots que les serviteurs voilent le visage de Amon. L'un d'eux, Harbona, s'adresse au roi. Majesté, Amon a lui-même préparé un gibet pour y pendre Mardochée, l'homme qui a sauvé ta vie. Ce gibet se dresse devant la maison de Amon. Il est haut de 25 mètres. Qu'on y pende Amon, ordonne le roi. Amon est pendu au gibet qu'il avait fait préparer pour Mardochée. Assuérus remet à Esther tous les biens de Amon. Elle apprend au roi que Mardochée est son parent. Le roi le fait venir et l'établit dans les fonctions que Amon avait exercées. Les secrétaires du roi sont convoqués. Selon les indications de Mardochée, ils écrivent des lettres aux juifs, aux représentants du roi, aux gouverneurs et aux hauts fonctionnaires des 127 provinces de l'Empire. Il y est écrit que le roi autorise les juifs de toutes les villes de l'Empire à se rassembler pour défendre leur vie. Mardochée sort du palais vêtu d'un costume royal violet et blanc et porte une grande couronne d'or. La ville de Suse retentit d'acclamations et de cris de joie. Pour les Juifs, c'est une explosion de bonheur, une allégresse sans mélange, un triomphe. Esther chapitre 8. De tels bouleversements sont possibles dans nos vies et nos familles. Ce même Seigneur peut nous revêtir aujourd'hui de la persévérance, de la patience et de la sagesse d'Esther. Le mariage est un lien d'amour qui se tisse au fil des années. En devenant les amis de nos maris sur un plan pratique, moral et spirituel, le jour viendra où nous récolterons pleinement ce que nous aurons semé. Face aux voleurs, nous avons non seulement le droit, mais le devoir de réclamer notre plein héritage d'enfants de Dieu. Voici un témoignage qui m'a également ouvert les yeux à ce sujet. Une femme avait épousé un fonctionnaire alcoolique et violent. Cet homme la trompait ouvertement et ne subvenait plus à ses besoins. Même ses enfants s'étaient détournés d'elle pour s'enfoncer dans la délinquance. Seule face à ce chaos, elle s'est tournée vers Dieu et s'est mise à prier pour le salut de sa famille. Une nuit, dans un songe, le Seigneur lui dit : Tu as tellement prié que je suis venu moi-même pour te délivrer. Elle entendit alors des voix stridentes qui hurlaient : Ne prie plus, arrête, ne prie plus. Les démons qui infestaient sa famille la suppliaient. À cet instant, elle vit un trousseau de clés atterrir à ses pieds. Le Seigneur lui dit : Ramasse-le. En face d'elle se trouvaient des portes fermées. La même voix, pleine d'autorité, lui ordonna de les ouvrir. Dans la première pièce, il y avait des vêtements magnifiques. Elle ne comprit pas ce que cela signifiait. Mais Jésus lui dit, « Sers-toi abondamment. Prends, c'est la bénédiction que j'avais en réserve pour toi et ta famille, mais l'ennemi vous l'avait volée. » Dans la deuxième chambre se trouvaient des diplômes et des promotions de toutes sortes. Le Seigneur reprit, « Sers-toi. C'est l'avenir que je réservais à tes enfants, mais l'ennemi l'avait bloqué. » Il y avait encore bien d'autres trésors derrière les portes, avec, chaque fois, le même commentaire. L'événement le plus marquant de son témoignage a été la conversion de son mari. Après lui, toute la famille est venue à la foi. Son intercession, son combat de foi, lui ont acquis une pleine victoire. Délivrée de l'esclavage de la crainte, elle est entrée en possession de son héritage d'enfant de Dieu. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 16, verset 31. « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, lorsque tu obéiras au commandement que je te prescris. » Deutéronome 28, verset 13. Si notre vie appartient pleinement à Dieu, notre joie sera de faire sa volonté, et nous aurons toute l'autorité nécessaire pour revendiquer, face aux voleurs, les bénédictions de notre héritage. Deutéronome, chapitre 28. Une pleine liberté. Un couple d'anciens assumait avec zèle des responsabilités importantes de leur église. Pourtant, ils se disputaient sans cesse. En parlant avec eux, leur berger découvrit que l'épouse venait d'une famille ravagée par des relations hors mariage. Sa mère était déjà enceinte lorsqu'elle s'était mariée. Sa grand-mère avait vécu la même aventure, ses tantes et ses sœurs également. Interrogée sur son passé prémarital, elle déclara qu'elle n'était pas enceinte lors du mariage. Pourtant, en approfondissant ce sujet délicat, le conseiller comprit que les jeunes gens avaient eu des relations sexuelles pendant leur fiançailles. Cela avait provoqué chez elle une grande déception et une amertume qui se tournait à la fois contre elle-même et contre son conjoint. Elle avait tant espéré que sa robe blanche de mariée serait symbole de pureté. Elle avait échoué. Elle ne valait pas mieux que sa famille qu'elle avait si longtemps regardée de haut. Blessée, elle vivait depuis des années dans une sourde rébellion. Le pasteur prit à part le mari pour l'aider à prendre conscience de la profondeur de la frustration de son épouse. Même si elle avait joué le jeu, au bout du compte, elle s'était sentie utilisée et salie par ses relations prémaritales. Il fallait donc qu'il demande pardon à son épouse s'il voulait voir la guérison de leur couple. Lorsqu'il s'est exécuté, il a désarmé la colère et la rancœur secrète de sa femme. La démarche sincère de son mari l'a touchée. À son tour, elle s'est remise en question, reconnaissant son mépris pour son mari et son refus de l'autorité. Elle lui a demandé pardon. Comme Daniel, Daniel 9, versets 3 à 20, ils ont confessé leur faute et celle de leur père, implorant la guérison de leur couple et la bénédiction sur leur descendance. Et ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Après s'être réconciliés, ils ont brisé les liens de cet héritage impur au nom puissant de Jésus-Christ, et ont ainsi détruit ses effets sur eux-mêmes et sur leurs enfants. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu 18, verset 18. Cette prise d'autorité leur a permis de restaurer leur amitié et de prendre un nouveau départ. Débusquer les malédictions familiales. En travaillant comme assistante sociale, je me suis aperçue que les cas sociaux se reproduisent trop souvent de génération en génération. Si on remonte l'arbre généalogique d'une famille, on trouve fréquemment les mêmes héritages chez les parents et les grands-parents. Occultisme, alcoolisme, violence, pauvreté endémique, pédophilie ou maltraitance d'enfants. Lorsque ces calamités se manifestent dans une famille depuis plusieurs générations, il faut les confesser et briser ce joug. L'histoire de l'adultère du roi David avec Bathsheba est, à cet égard, riche en enseignements. David couche avec la femme de l'un de ses officiers. Celle-ci devient enceinte. David essaye alors par tous les moyens de cacher son forfait, mais toutes ses ruses échouent. Il se résout donc à faire assassiner l'infortunée Marie en camouflant le crime sous l'aspect d'un fait de guerre. Le meurtre et l'adultère pénètrent ainsi dans la maison royale et on infecte les descendants. Le bébé, issu de cette relation adultère, ne survit pas. 2 Samuel 11, verset 4 et 2 Samuel 12, versets 14 à 28. Par la suite, Absalom, autre fils du roi, se rebelle contre son père, allant jusqu'à coucher avec ses concubines. Sa tentative de putsch s'achève dans le sang. 2 Samuel 16, verset 22, 2 Samuel 18, verset 15. Nos actes, bons ou mauvais, ont des conséquences sur nos enfants. Chaque famille a des qualités qui lui sont propres, comme la générosité, la solidarité ou un esprit d'entreprise. Malheureusement, chacune a aussi des faiblesses et a parfois développé des vices comme le mensonge, le vol, la violence, l'amour de l'argent. Certaines semblent emprisonnées par des divorces en série, une santé anormalement déficiente, des problèmes financiers chroniques ou même des accidents à répétition. Bien entendu, ce n'est pas un destin inéluctable, mais lorsque l'occultisme ou d'autres abominations pénètrent dans une famille, les infortunés descendants peuvent en être contaminés. Cela devrait nous inciter à mettre en règle nos modes de vie malsains avant que nos enfants n'en soient atteints. Ceux qui se détournent des péchés familiaux pour vivre selon Dieu peuvent revendiquer une inestimable promesse, être bénis jusqu'à la millième génération. Exode 20, versets 5 et 6. Je me souviens d'une jeune Africaine de Burkina Faso, prénommée Antoinette. Elle venait d'une ethnie pratiquant la polygamie. Son père avait pris une seconde épouse qui bientôt a supplanté sa mère. Cette dernière fut tellement maltraitée qu'elle s'enfuit du domicile conjugal. Elle abandonna Antoinette, sa petite fille de 8 ans, sous la férule de cette marâtre. Cette dernière haïssait l'enfant. Un jour, dans un accès de colère, elle maudit la petite, lui déclarant qu'elle ne se marierait jamais et ne serait qu'une épouse de second rang. Devenue jeune fille, Antoinette s'est en effet aperçue qu'elle n'attirait que les hommes mariés. Lassée de fuir les sollicitations dont elle était constamment l'objet, elle finit par vivre avec l'un d'eux. Plusieurs années après, elle s'est convertie. En lisant la Bible, elle réalisa que sa situation n'était pas en accord avec ce que Dieu veut pour ses enfants, pas plus que l'oppression ou l'abandon dont elle avait été victime. Elle vivait dans l'adultère, déchirée elle aussi par la haine, la jalousie et la peur de sa rivale. C'était une situation sans issue. De plus, les pratiques occultes avaient amené toute sa famille sous la domination d'esprits mauvais. Elle choisit de se tourner pleinement vers Dieu. Dans la prière, elle brisa le pouvoir de la malédiction proférée contre elle. Après cet acte, elle prit la courageuse décision de se séparer de son ami. Ce choix ne fut compris ni par sa famille ni par ses amis, qui lui reprochèrent d'avoir perdu la raison. Mais la joie qui inonda son cœur valait tous les sacrifices. Pour la première fois, ses nuits se remplirent de paix. Elle est aujourd'hui engagée dans son Église. Délivrée des valeurs oppressantes du passé, elle se sent maintenant prête à fonder une famille heureuse. Faites votre propre diagnostic. Toute plante se reproduit selon son espèce. C'est bien connu, celui qui s'est juré de ne jamais boire parce qu'il a trop souffert enfant de l'alcoolisme de son père pourrait bien s'adonner à l'alcool quelques années plus tard et à son tour maltraiter femme et enfant. De même, la petite fille rejetée par sa mère, une fois devenue adulte, éprouvera parfois une haine incontrôlable envers son propre enfant. La victime devient tortionnaire. Ce comportement héréditaire a des racines spirituelles plus encore que morales ou physiologiques. Depuis la chute d'Adam, le royaume de Dieu se trouve confronté à celui de Satan. Chacun a le choix entre l'amour et l'obéissance envers Dieu ou la rébellion. En se rébellant, on se met sous la coupe de l'ennemi. Mais on peut en sortir à deux conditions, celle de s'en repentir et d'en être purifié. La repentance est bien sûr le regret d'avoir mal agi et aussi la décision claire de se tourner vers Dieu pour recevoir sa vie et lui obéir. La deuxième étape consiste à vivre un nettoyage intérieur. L'aide d'un conseiller spirituel est alors très précieuse. Il s'agit de se débarrasser de toute forme d'idolâtrie, attachement excessif aux valeurs matérielles, destruction de tout objet ayant eu trait à l'occultisme. Ces deux étapes franchies, il est bon de s'interroger au sujet de son héritage familial. Daniel voulait voir la libération de son peuple qui vivait en déportation. S'identifiant à ses compatriotes, il n'a pas hésité à confesser leurs péchés. Voir la très belle prière de Daniel, dans Daniel 9, versets 4 à 20. Il voulait lever tout interdit qui empêchait les siens de vivre la libération. Il faut bien qu'un jour quelqu'un confesse le péché commis pour que le processus de restauration commence. Vous pouvez être cette personne clé. Si vos ascendants ont adhéré à des sectes ou à des groupes occultes, il vous faut clairement confesser ses fautes et renoncer au nom de Jésus à toute influence qui pourrait en être issue. Dans cet héritage à refuser, passez en revue les points les plus importants. Il peut être utile de se renseigner sur le vécu familial auprès d'oncles et de tantes ou de grands-parents. Y a-t-il des maladies qui se répercutent de génération en génération? Des décès répétitifs anormaux? Par exemple, la mort qui frappe toujours des personnes jeunes? Les couples sont-ils unis ou au contraire détruits par des séparations et des divorces chroniques? Votre famille est-elle fondée sur des unions légitimes ou illégitimes? Que vivez-vous dans le domaine de la stabilité sociale? Les enfants réussissent-ils leurs études? Trouvent-ils leur place dans leur profession? Quelles étaient les puissances spirituelles invoquées par les générations précédentes? Quelles étaient leurs croyances? Certains membres de votre famille ont-ils eu recours à des guérisseurs ou à des médecines parallèles douteuses? En réfléchissant, j'ai réalisé que, dans ma famille, du côté maternel, toutes les femmes étaient devenues veuves très jeunes. Seule, ma mère avait échappé à cette fatalité, mais c'est elle qui est décédée accidentellement à l'âge de 42 ans. C'était d'autant plus marquant qu'elle était la dernière de la lignée. Son nom de jeune fille s'est éteint avec elle. Dans sa famille, il y avait une certaine pratique religieuse, mais non une foi vivante. Moi-même, alors que j'ai atteint la quarantaine, la crainte de devenir veuve m'a souvent étreinte. C'est alors que j'ai pris conscience des héritages familiaux. J'ai donc refusé, au nom de Jésus, cet héritage de mort précoce et réclamé des années normales de vie pour mon mari, selon la promesse donnée à ceux qui craignent Dieu. La crainte de Dieu prolonge les jours. Proverbe 10, verset 27. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour toutes ces années où il nous a gardés unis et en bonne santé. Quel que soit le poids du passé, il peut être racheté. Les mauvaises influences sur notre vie présente et sur celle de nos enfants peuvent être brisées. Renonçons aux héritages empoisonnés et réclamons la bénédiction promise à ceux qui aiment Dieu.